Salut à tous, bienvenue dans cette émission numéro 71 de Tatapoum. Je précise tout de suite, c'est une émission qui est enregistrée. Et par rapport à mes calculs, on ne connaît pas le résultat des élections, contrairement à vous. Et actuellement, la guerre fait rage entre l'Iran et le duo Israël-États-Unis, et on ne sait pas ce que ça donne. Si ça se trouve, on est déjà tous morts. Mais dans le doute, on enregistre l'émission quand même. Aujourd'hui, autour de la table, des gens qui sont encore bien vivants, on a Héloïse, Nina, Arnaud, Guillaume, Cédric, bah non, pas Cédric, Cédric qui est déjà dans son bunker, et on a aussi Bibi et Marion aux manettes, à la technique, donc on fait attention. Aujourd'hui, on va aller de Dundalk en Irlande à Paris, en France, pour ceux qui ont des doutes, en passant par Tomintal en Écosse et Strasbourg, toujours en France. Et au cours programme, donc, on va commencer par Just Mustard, ensuite on aura Bratacus, on aura Heimberg et enfin Hazard. Et une petite devinette, parmi ces quatre groupes, j'en ai vu trois sur scène. Est-ce que vous allez deviner lesquels j'ai vus et celui que je n'ai pas vu? Je ramasse les copies à la fin de l'émission. On commence avec le troisième album de Just Mustard, qui s'appelle We Were Just Here, dont Guillaume a choisi pour commencer le titre Silver. C'est parti.
Oh,
C'était donc Silver, le premier extrait de l'album We Were Just Here de Just Mustard. Et Guillaume va nous raconter l'histoire de ce groupe irlandais. C'est le troisième album.
L'histoire, c'est beaucoup dire. Hein. Non, Just Mustard est une formation de 5 membres formée en 2015 et originaire de Dundalk en Irlande. Le groupe a connu un petit succès local dès leur premier album, à leur début, en 2018. Puis une reconnaissance internationale pour... Il y a un problème de micro, on règle ça. Puis la reconnaissance internationale avec leur réussi second album, Heart Thunder, en 2022, pour posséder désormais tout l'attirail médiatique qui va avec. Hein. Page Facebook, page Wikipédia, Instagram, YouTube, leur site propre, bien entendu. Autant dire que sans être une grosse formation, c'est un groupe installé sur la scène indie rock. Et donc, ce troisième album était attendu, hein, puisque leur production est quand même relativement modeste. Il se nomme We Were Just Here et il sort chez le solide label indie new-yorkais Partisan Records, celui de Beth Orton ou de PJ Harvey. J'avais déjà découvert leur précédent album, hein, plus intéressant que celui-ci. Il jouait sur une ambiance sombre et inquiétante, avec de beaux effets sonores, où la voix langoureuse de Cathy Ball s'imposait déjà à la façon d'un instrument. Cet album d'ailleurs se réécoute avec plaisir, ce qui n'aura pas forcément de même avec We're Just Here, car patatras, la belle orchestration s'effondre. Hein. Le groupe a beau avoir fait le choix d'orienter ses compositions vers un style plus shoegaze, dream pop que le précédent, cela ne m'a guère convaincu, et pourtant ils avaient tous les fondamentaux et ce qu'ils laissaient entendre, ils pouvaient y parvenir. Hein. Et en effet, tout semblait en place en s'inscrivant dans la tradition des groupes slowcore, ethereal wave, où domine un chant féminin aigu. Just Mustard tenait là une formule opérante pour son efficacité harmonique démontrée. Le contraste entre le vrombissement des guitares et les susurrations éthérées d'une chanteuse a connu de multiples succès par le passé, et clairement, Just Mustard ne s'en inspire bien plus que trop dans ce disque, sans lui apporter toutefois une grande nouveauté, certes, mais en maîtrisant suffisamment solidement pour ne pas en démériter. Pour autant, c'est sur la valeur mélodique intrinsèque des copeaux que j'ai tiqué. Elle ne retrouve pas les belles variations de leur précédent album. Musicalement, l'envoûtement sonore qui est supposé atteindre ce style slowcore n'est jamais extraordinaire ici. L'orchestration est d'un niveau moyen et ne transporte pas. Il n'y a pas les soulèvements soniques dont étaient capables les musiciens précédemment. Et c'est surtout le chant qui domine et qui donne l'essentiel de la personnalité aux compositions. Or, s'il n'est pas désagréable, il n'a non plus rien d'envoûtant en soi. Donc, si je n'ai pas été insensible à l'univers proposé, j'ai été largement déçu. Un album pas assez bien élaboré ou travaillé, manquant de qualité. C'est dommage parce que généralement, j'apprécie beaucoup ce genre d'ambiance.
Et ben voilà, ça c'est une façon gentille de dire j'ai pas aimé, mais. Donc, merci Guillaume. Nina, est-ce que tu n'as pas aimé, mais ou il n'y a pas de mais?
Alors. Moi du coup avec l'intro du premier morceau qui est hyper noise, j'étais plutôt emballée et je m'attendais à une suite plus agressive, et puis finalement on a une petite batterie trip-hop qui rentre accompagnée d'une voix toute douce, un peu à la Björk mais sans la puissance vocale qui va avec. Alors apparemment le groupe vient du shoegaze, et si leur son est bien plus électro, on retrouve effectivement le côté planant et hypnotique du style. Alors il y a des passages musicaux assez sympas, mais vraiment ce chant, moi je trouve que c'est un peu toujours la même chose, j'ai trouvé ça très froid et robotique, et pour le coup, moi, je l'ai trouvé assez désagréable, tant c'est toujours la même note. Les morceaux sont longs, on les sent passer, et j'avoue qu'en écoutant l'album, je regardais à chaque morceau où on en était dans l'album, et même plusieurs fois par morceau. C'est dire que We're Just Here n'était pas spécialement un bon moment à passer pour moi.
Bon, alors moi, je compte sur mon infirmière habituelle, Héloïse.
Je vais abandonner ce rôle. Moi, j'étais sûrement pas au même endroit que Just Mustard, sûrement avec Nina. C'est un album à côté duquel je suis totalement passée. Donc certes, à l'écoute du premier titre, qui provoque un certain enthousiasme, les mélodies électroniques et texturées de Just Mustard, auxquelles se mêlent des guitares planantes, opèrent un certain charme qui est appréciable. Là, c'est dépassé le troisième titre, la répétition en boucle de la même formule, conjuguée au caractère strident du chant de Cathy Bell, insupportable, provoque un sentiment de déjà entendu, voire d'ennui. Bref, je passe mon tour sans regret.
Bon, ben, à défaut d'infirmière, un infirmier ?
Moi, ça m'a fait penser à mon pull, en fait, cet album, le coton, parce que du coup, je porte du Saint James et j'ai choisi ce pull parce que c'est doux. C'est de la laine de qualité française, mais là, pour le coton en musique, ça m'a vraiment fait chier. C'est vraiment trop doux, ça pique pas du tout, malgré le nom de leur groupe. Alors ça tient, je rejoins en fait complètement Guillaume au style, hein, le shoegaze, ça a vite tendance à m'ennuyer, et puis après avoir mangé trop de choux, on sait ce qui se passe, c'est vraiment dégoulinant, et en fait c'est amplifié par la voix de la chanteuse. J'ai jeté un œil sur une oreille, pardon, sur le précédent, et il était plus strident, plus piquant. Celui-là est vraiment trop lisse, trop pop. La voix, je la trouve vraiment trop niaise. Les effets réverb de la voix et de la guitare sont lassants, je suis d'accord, c'est très vite la même chose. Le titre qu'on a entendu est peut-être un peu plus travaillé, un peu plus remuant. J'ai quand même levé l'oreille sur quelques titres.
C'est leur single.
Ouais, ils ont bien fait pour le coup de le choisir. Le reste m'a plutôt vraiment ennuyé. C'est trop sucré, c'est vraiment indigeste. Je peux être sensible, hein, au shoegaze parfois, mais là, c'est aussi le manque d'originalité, de renouvellement, parce que c'est un style quand même qui a été vraiment travaillé. Et là, il y a pas grand-chose. Et voilà. Donc non, c'est vraiment indigeste pour ma part.
Donc si je comprends bien, le 17 avril au Trabendo, il y aura personne pour m'accompagner.
Je serai devant ma télé, ouais.
C'est ça. Bon, ben tant pis.
Mais si tu vas, c'est que...
Ah, mais moi, en fait, alors ça fait partie des trois groupes que j'ai déjà vus sur scène. Je l'ai déjà vu deux fois et j'y retourne en pleine connaissance de cause, sous masochisme ou goût étrange.
Mais du coup, ouais, en live, ils arrivent à rester plus sur le premier, ou c'est aussi chiant?
En live, c'est plus noise, en tout cas. C'est ce que Nina aurait apprécié, en fait.
Mais t'es d'accord que le précédent était bien meilleur?
Oui, le précédent était quand même un peu plus péchu et rentre dedans et il titillait un peu plus les oreilles. Tant pis pour moi, tant pis pour vous, hein, surtout parce que c'est vous qui avez souffert, moi pas vraiment. Donc on va écouter un deuxième extrait de cet album que la chanteuse Katie Ball indique être une description du bonheur toxique. Visiblement pour vous, il y a que le côté toxique. Le morceau, ça s'appelle We Were Just Here, comme l'album en fait.
Thank you.
On quitte donc l'Irlande, on traverse la mer, on fait quelques kilomètres pour se retrouver en Écosse avec le duo écossais donc Bratacus qui vient de sortir son premier, deuxième album, mais bon, c'est album parce qu'il y a 10 titres, mais la longueur, c'est une vingtaine de minutes, donc tout se discute. Et pour présenter cet album, c'est Nina qui a travaillé, elle a passé des heures à chercher des infos, vous allez voir. Et on va commencer par écouter le morceau Final Girls, c'est elle qui l'a choisi. C'était donc le morceau Final Girls de Bratacus, tiré de cet album Agridden. Nina, est-ce que cet album t'a tourmenté?
Alors, il n'y a pas que l'Irlande et l'Angleterre qui ont une scène punk foisonnante outre-Manche. Même au fin fond des Highlands écossais, les Britanniques réussissent à nous surprendre. Bratacus est un groupe, ou plutôt un duo, composé de deux sœurs, Brega et Onag Quinn, originaires du petit village de Tomintoul, au cœur des Highlands. Autant vous dire que ce village est plutôt connu pour son whisky que pour sa scène punk. Et pourtant, les sœurs Quinn ont baigné dans le punk depuis leur plus jeune âge. Leur père est musicien et a toujours été dans des groupes. C'est donc tout naturellement que Brega, la chanteuse, s'est mise à composer des chansons à l'âge de 12 ans, bientôt suivie par sa sœur à la basse. Cependant, difficile de trouver des musiciens, et surtout des musiciennes punk à Tomintoul, c'est pourquoi Bratacus utilise une boîte à rythme en guise de batterie. Donc là, pour moi, on est vraiment au cœur de l'esprit punk do-it-yourself. S'il n'y a pas de batteur ou de batteuse dans les environs, bah une boîte à rythme fera l'affaire. Isolées dans leur village, portées par l'envie de faire de la musique, les deux sœurs ont simplement pris les instruments et ont fait avec les moyens du bord. Agridden, c'est le deuxième album du groupe. Pour l'anecdote, l'album avait été enregistré à la maison par les musiciennes il y a 3 ans, mais elles ont tout perdu quand leur ordinateur a cessé de fonctionner, ce qui est le cauchemar de nombre de musiciens autoproduits. Mais un mal pour un bien, l'album a finalement été produit en Suède par nul autre que le bassiste des Hives, Johan Gustafsson. Autant dire que Bratacus a su bien s'entourer, car elles ont également invité le batteur des mêmes Hives sur le morceau Turnstile. Moi, je dois avouer que sans le contexte, l'écoute de l'album ne m'a pas spécialement bouleversée. C'est plutôt du bon punk rock, fidèle au code du genre. Au fil de l'album, on retrouve l'influence très forte de Bikini Kill, de L7 ou de Hole, mais c'est surtout aux Distillers qu'on pense en écoutant Agridan, et pour cause, le groupe de Brody Dale est une de leurs inspirations principales. Alors c'est une super référence, mais de la part d'un groupe qui a 10 ans d'existence, j'aurais trouvé ça chouette qu'il y ait un peu plus de prise de risque et que les sœurs Queen aient trouvé leur identité musicale. Cependant, en m'intéressant à la démarche de Brattacus, j'ai davantage apprécié l'album. Je parlais de la dimension do it yourself, mais les revendications du groupe sont centrales dans leur travail, et ce sont des causes auxquelles j'adhère à fond personnellement. Le féminisme est un thème central, elle revendique la légitimité des femmes à faire de la musique, elle critique la représentation des femmes dans les médias, elle parle d'exploitation dans l'excellent titre Worth It qu'on va entendre juste après, et elle parle aussi de la question du véganisme dans le titre Real Men Eat Meat, qui fait le lien entre carnisme et masculinisme, thématique qui personnellement me touche beaucoup et que je trouve assez sous-représentée dans le punk rock. Passée donc la première impression, j'ai plutôt été séduite par Brattacus et son univers, et au final, peu importe, qu'il y ait des dizaines de déclinaisons des Distillers ou de Bikini Kill, si ça permet à des personnes de se sentir légitimes à faire de la musique et à porter des revendications émancipatrices, c'est avant tout ça l'esprit punk.
Tellement gentil.
Alors, c'est cet esprit punk joué par des noms françaises. Tu as adoré Guillaume.
Comment vous dire ça? Dès le premier morceau, en fait, j'ai appris deux choses. Un, musicalement, c'est du punk hyper classique, en effet, Nina. Et de deux, la voix de la chanteuse principale fait inévitablement penser à Courtney Love de Hall avec son hablement rauque et sa voix traînante. Le style Riot Girls, c'est vraiment très sensible aussi dans ce qu'elles font. Du coup, on comprend vite que nos deux écossaises n'ont clairement pas l'intention de réinventer l'eau chaude. Elles se débrouillent bien mieux avec les plats réchauffés. Car singer 30 ans après un style passé de mode relève soit d'un bel opportunisme marketing, car il y aura toujours des gogos pour se laisser prendre par ce ressucer déjà à la base pas très intéressant au point de vue musical, soit à l'heure de la vague post-MeToo, un moyen de reprendre les choses là où la vague Riot Girls avait laissé les choses, à savoir un punk rock basique à grosse guitare, mais féministe et politique. Or, pour reprendre First and Moore dans une interview à propos de la scène des années 80 aux USA, mais qui peut être étendu au courant Riot Girls. Le problème est que si le propos politique était bon à l'époque, musicalement, c'était souvent pas terrible. Les années ont passé, mais cette analyse n'a rien perdu de sa pertinence. L'album de Brattacus ne propose rien que de rejouer du punk rock solide, mais ordinaire, et donc qui se confond avec la multitude d'autres formations pas mauvaises, mais sans idées sur le plan musical, pour lui donner de la profondeur. Dès lors, qu'importe la teneur de leurs propos, le peu d'intérêt que suscite cette musique, trop banale, plombe de toute la valeur l'approche qu'il a à l'heure.
Eh ben dis donc, il était presque gentil, Guillaume, là-dessus. Arnaud, toi aussi, t'as pas aimé?
Non, mais en fait, je pense qu'on peut rejoindre les deux analyses de Nina et Guillaume. On peut être d'accord que c'est pas musicalement l'album de l'année, mais il y avait quand même un propos politique à l'époque, et là il a changé le propos politique. C'est surtout ça qui est intéressant, et j'ai la même approche que Nina. Je crois que je l'ai écouté une ou deux fois, et musicalement ça passe, c'est pas, et Guillaume le dit. Par contre, quand on essaie de regarder un peu la démarche, c'est ça qui rend le groupe intéressant, et dans un monde post-Weinstein, c'est quand même intéressant de lire le sous-texte, parce que il y avait pour les Riot Girls pas de texte sur le véganisme, sur le masculinisme, c'était quand même des thématiques qui n'existaient pas, et que un jeune groupe ait des choses à dire. Alors peut-être musicalement pas de la meilleure manière, mais pour autant c'est pas de la bouse musicalement, donc on en a écouté une juste avant. Je pense qu'on peut ici se satisfaire de la teneur de leurs propos, et puis elles le font avec une énergie, un hurlement, elles martèlent leurs propos à coups de riff et de basse et de guitare, et je crois que c'est ça la volonté, de vouloir l'enfoncer dans le crâne de l'auditeur, qui rend l'approche intéressante. Donc il faut que ce soit des sons qu'on essaie, et puis je suis plutôt content que on parle de ça à Tatapoum. Voilà.
Mais c'est très bien. Et puis moi je voudrais comparer par exemple avec Just Mustard, dont l'engagement féministe et politique est quand même beaucoup plus limité. Ça, c'est.
Ah bah, c'est pas de ce côté-là qu'on va les trouver. Hein,
évident. Héloïse, alors.
Eh bien, moi, je fais sûrement partie des gogos mentionnés par Adrien, puisque j'ai adoré ce disque qui s'ouvre un peu à la manière d'une baffe dans la gueule. C'est brutal et précis, bien campé sur des riffs certes basiques de guitare, mais qui sont martelés en boucle et dont sointe une énergie brute. C'est un retour aux fondamentaux du punk qui clairement n'invente pas la poudre, auquel s'ajoutent des beuglements rock de deux voix jumelles qui est assez inhabituel dans le paysage punk et qui fonctionne forcément à merveille. Par ailleurs, comme vous, j'ai été séduite par l'orientation politique implacable du disque qui cause féminisme, droit des animaux, lavage de cerveau médiatique, à grand renfort de paroles crues et incisives. J'en ai traduites quelques-unes qui sont, selon moi, assez sympas. Nous ne sommes pas vos final girls, nous ne suivrons pas vos règles. Un vrai homme, cela n'existe pas, taisez-vous et crevez. Ou encore, on ne nous utilisera pas comme des objets, on ne nous brisera pas. Il en résulte un brûlot punk ultra percutant qui est débité à une vitesse folle, qui est copieusement bruyant, délicieusement crade et savoureusement politique.
Alors moi je ne peux que confirmer, puisque c'est un groupe que j'ai vu deux fois sur scène, la dernière fois il y a une quinzaine de jours au Supersonic, et effectivement Brana elle présente tous les morceaux avant de les jouer, et en insistant sur oui le fond, le féminisme, l'anticapitalisme, ça elle a beaucoup insisté, et ça ressort peut-être pas aussi fortement que le féminisme sur l'album, et donc c'est un discours qu'on entend bien. Et pour compléter ce que disait Nina sur les relations entre les Hives et Brattacus, en fait, moi j'avais vu il y a bientôt 3 ans Brattacus en première partie des Hives à l'Olympia. Autant dire que pour une première date en France, elles ont fait pas mal, et justement elles ont rigolé la dernière fois au Supersonic en disant oui, en gros on a fait une salle énorme, mais on était là par hasard, et Supersonic ça leur correspond bien mieux. On espère que les revoir dans des salles à taille humaine avant qu'elles rentrent dans le système. Non, ça j'y crois pas trop, elles vont pas rentrer dans le système. On va écouter donc un deuxième morceau qui s'appelle Worth It, parce que ça vaut le coup.
Shall you reign?
On abandonne le village de Tomintoul et ses 700 et quelques habitants pour se retrouver dans la capitale de l'Europe, à Strasbourg, avec le trio français qui s'appelle Heimberg, on va aborder un aspect qu'on aborde assez peu dans Tatapoum, qui est le côté post ou cold du punk. Et ce premier album de Heimberg, il s'appelle Faceless, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, et Héloïse, elle nous a choisi pour démarrer le titre It Keeps Me Up All Night. C'était donc un premier extrait de l'album Faceless de Heimberg. Héloïse, est-ce que tu as cédé à la noirceur de Heimberg?
Absolument. Donc, Heimberg est un trio post-punk coldwave strasbourgeois, composé de Quentin Vilger au chant et à la basse, d'Anthony Toulorge à la guitare et au synthé, et d'Anthony Pierra au chant et à la guitare, dont je ne saurais vous dire davantage, si ce n'est qu'après plusieurs EP, ils viennent de sortir leur premier album, Faceless, paru en décembre dernier sur le label parisien Ici Cold Record, spécialisé dans le post-punk, la coldwave et le goth rock. Initialement inspiré par la scène post-punk d'Europe de l'Est, Heimberg Schönberg, qui emprunte le nom d'une commune suisse du canton de Berne pour votre gouverne, est parvenu à trouver sa propre identité musicale consistant à redonner vie au post-punk sombre et froid des années 80. Armé d'une basse, d'une guitare, d'une boîte à rythme et de synthétiseurs, le groupe déploie ainsi une musique à la fois énergique et froide, caractérisée par une acoustique industrielle. Il en résulte une atmosphère austère, minimaliste et mélodieuse, dans laquelle se distingue un chant plaintif en anglais au milieu de nappes de réverb et des effets de chorus qui interrogent des émotions telles que la tristesse, la mélancolie ou encore la solitude. Pour ma part, c'est un album que j'ai trouvé très beau et de très bonne facture, dont l'apparent minimaliste dissimule en réalité une composition riche et complexe. J'ai particulièrement apprécié ses sonorités industrielles et la froideur de l'atmosphère qu'il parvient à créer. Selon moi, c'est un vrai petit bijou.
Arnaud aussi. Là, je le voyais se décomposer en t'écoutant, Héloïse. Arnaud, t'as fondu aussi.
Ouais, parce que l'été arrive. Moi, la Code Wave, début d'hiver, ça passe. J'attends le printemps avec impatience. C'est comme manger de la raclette en été, c'est pas du tout le bon moment. Je proposerais presque de le laisser au frais jusqu'à l'année prochaine et ils sont pas idiots, ils l'ont sorti le 5 décembre. Donc peut-être le bon moment pour écouter ce type de musique. Pour moi, la date de parution est totalement passée. C'est comme acheter des moufles en été, je vois pas l'intérêt. Là, je me marrais un peu avec les qualificatifs d'Héloïse, noirceur, tristesse, mélancolie, froideur, et en fait ouais c'est ça, moi là ça passe pas du tout. Je suis passé complètement à côté de cet album. C'est beaucoup trop martial, trop pesant, le travail sur la voix est, je trouve, un peu too much. Alors le cahier des charges pour la Cold Wave est complet, hein. Enfin c'est ce qu'on attend de ce type de mouvement musical, mais moi ça m'a pas accroché, il y a rien qui dépasse. J'ai traversé l'album sans éprouver grand chose. Peut-être qu'à un autre moment j'aurais été charmé par l'écoute de cet album là, mais là c'est vraiment pas ce que j'attends. J'en ai marre de la flotte et je veux un truc qui réveille un peu, qui soit un peu ensoleillé. Il y a sûrement des moments où il faut écouter ce type de morceaux, mais moi j'ai un peu souffert à cette écoute. Mathieu, tu l'aurais proposé à l'automne peut-être, mais pas là.
Oui, mais j'ai pas eu le choix. C'était maintenant ou jamais. Toi, t'aurais préféré jamais. Mais est-ce que Guillaume, t'es dans le même état d'esprit que
Arnaud? Ouais, un petit peu. Je vais préciser davantage le propos d'Arnaud. Nos fashion victimes à Tatapoum, que sont Bibi et Nina, comprendront facilement l'analogie que je vais faire. L'infime variation dans le port du perfecto ou de la coupe que l'on donne à ses cheveux en mulet vous rattachera immanquablement à un style vestimentaire qui soit vous labellise comme punk rocker accompli, soit vous fait passer pour une hipster opportuniste. Il en va de même pour le sous-genre que pratiquent nos Strasbourgeois de Heinberg. J'ai nommé la Cold Wave. S'il est un genre où la nuance est d'une importance capitale, c'est celui-ci. Selon le degré appliqué de telle tonalité par rapport à une autre, des barrières terribles se dressent et divisent de façon irrémédiable des tribus entières d'adeptes. Ainsi, chez Heinberg, nous sommes chez les partisans de la Cold Wave gothique, ce qui, pour moi, disciple de la Front Wave, si je peux tolérer la Dark Wave, j'ai toujours tenu la goth comme la sous-catégorie la moins intéressante du genre, bien moins dans tous les cas que la Synth Wave. Du coup, je retrouve dans la Goth Wave de Heinberg beaucoup de travers qui me la font moins apprécier que la Minimal Wave, par exemple. D'autant qu'il y a chez eux une tendance à se porter également vers l'Ethereal Wave, qui n'a jamais été ma tasse de thé, alors que leur côté Death Wave, quoique moins prononcé, m'apparaît comme la chose la plus réussie chez eux. Tout cela peut paraître un peu flou, pourtant, retenez que les mêmes ingrédients procèdent d'un sous-genre à l'autre. Boîte à rythme, basse marquée, guitare réverb, nappe synthétique glacée et atmosphère sombre et hypnotique. Heinberg les pratique aussi bien qu'un autre, c'est là l'essentiel. À chacun ensuite d'en apprécier la teneur.
Et ben voilà, on a eu un cours de cold et là en l'espace de 3 minutes, et je pensais pas que un cours de cold pouvait faire autant rire en fait. Nina, alors toi qui as été quand même agressée d'entrée de jeu.
Moi qui voulais qu'on parle de Dark Wave la dernière fois, bah là je suis servie. Avec Heinberg, effectivement, on est complètement dans les codes du genre, et moi ça peut que me plaire. C'est sombre, c'est gothique. Même la pochette de l'album, elle rentre à 100% dans la DA Darkwave, quoi. Les Strasbourgeois réussissent dès le premier morceau à nous plonger dans cet univers qui est totalement maîtrisé. Dommage cependant qu'aucun titre ne sorte vraiment du lot. Le tout est assez homogène, c'est très lisse. Donc c'est réussi, mais il manque une étincelle, il manque le petit truc qui fait que c'est vraiment cool. En fait, l'album Faceless rentre tellement dans les cases que je sais pas trop quoi en retenir. Personnellement, je réécoute cet album avec plaisir, mais c'est pas le coup de cœur de l'année.
Ok, bien, bien, mais sans plus.
Voilà.
Si c'est comme ça, Héloïse, elle nous a choisi un deuxième extrait, Shadowed Guard. We'll be right back. Voilà, c'était un deuxième extrait de Faceless, l'album de Heimberg, qui était la partie cold de la chose. Donc, on pensait que c'était triste. Eh ben, on va ouvrir la partie classique de Tatapoum avec Arnaud, qui s'est chargé du cas de Abgnose, le deuxième album du projet Hazard, qui est un projet de black metal symphonique et apocalyptique, qui est pour le moins surprenant pour le profane. Et bah Arnaud, il a choisi de commencer, voire même de terminer, avec le morceau Senestrol. Oh ben ça c'était du brutal, ça le méritait pas franchement. Donc c'était la première partie du morceau Senestrol de l'album Abgnose du projet Hazard, et c'est Arnaud qui va nous en parler.
Ouais, donc c'est en effet le projet solo de... On connaît pas son prénom, j'imagine que ses parents ont pas eu l'outrance de l'appeler Thierry, mais... Il officie donc là sous son pseudo Hazard. C'est son deuxième album après Malivor, qui a reçu un très bon accueil critique en 2023 pour les critiques qui écoutent ce genre musical. Et en fait, c'est le spin-off d'un autre projet qu'il a, Les Chants du Hazard, où il est multi-instrumentaliste et il a fait 4 albums, alors c'est livre 1, 2, 3, 4 en gros, où il revisite la musique classique néo-romantique, mais pas dans son penchant métal. Alors ça ressemble, son autre projet, plutôt à du classique théâtral à la sauce horrifique. Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de batterie. Et ça aurait pu faire une bonne bande sonore pour le Dracula de Coppola. C'est plutôt agréable, c'est un peu angoissant à la longue, mais c'est impressionnant de voir toucher à autant d'instruments et à construire des œuvres classiques, hein, aussi construites et chiadées. Là, dans le projet qu'il a, le projet Hazard, on retrouve ce côté théâtral, mais pour le coup à la sauce black metal, avec des hurlements d'outre-tombe en remplacement des chœurs symphoniques de l'autre projet. Et ça m'a fait penser au pendant sonore de Lovecraft en littérature, ou de films d'horreur assez classiques, Nosferatu si on parle du cinéma. Tout y est fait pour être angoissant, oppressant. La pochette est vraiment très sombre, la voix est gutturale. On l'a entendu un peu ici, dans certains autres morceaux elle est plus présente. Les orchestrations sont saccadées, c'est dissonant, il y a des changements de rythme soudains. Là, Marion nous a coupé un des breaks du morceau qu'on écoutera, finira d'écouter par la suite. C'est assez martial. Et alors l'idée de son créateur, le Hazard, c'est que pour lui, agnose, si je le cite, signifie rejeter l'idée du divin, pour ne laisser la place qu'au désespoir, de devoir vivre sans être récompensé pour nos actions en ce monde, toujours plus profondément dans les cauchemars, toujours plus profondément dans le désespoir. Dans quel but, c'est la question qui le hante visiblement à chaque note. Alors, est-ce que l'effet escompté fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est pris d'autant d'effroi que la lecture d'une œuvre littéraire ou d'un film? Pour ma part, je suis pas sûr que ça fonctionne. J'ai pas ressenti l'effet escompté. La volonté de vouloir terrifier par la musique, moi, n'a pas marché. J'ai trouvé ça plutôt éprouvant. Alors pas sur tous les morceaux, parce que l'écoute d'un morceau passe, mais la multiplicité là des plages de 7-8 minutes, assez répétitive, je dois dire, m'a assez lassé. Autant en littérature, on peut allier le scénario, l'image, le son. Dans la littérature, il y a l'imaginaire qui peut faire que l'angoisse monte. Là, musicalement, je trouve qu'il manque quelque chose. Ça ne marche pas tout seul. Et j'ai pas eu d'image du tout en écoutant cet album-là. Et je trouve que du coup, l'effet tombe à plat. Peut-être qu'il aurait fallu une longue plage musicale avec des ambiances, ou en tout cas des montées, des plus travaillées et plus longues. Ça fonctionne beaucoup mieux sur... je trouve son autre projet, Les Chants du Hasard. Sur celui-ci, ça ne fonctionne. En tout cas, ça n'a pas fonctionné sur moi.
Héloïse, est-ce que t'es terrifiée?
Ah ben, en un mot, atroce. C'est une expérience cauchemardesque qui commence dès la pochette, si laide et effrayante que cela en est à vous faire regretter la lampe de chevet ou le doudou qui, enfant, vous permettait de fermer les yeux et de vous endormir. C'est une musique qui joue sur les mêmes ressorts que l'anxiété. Une lourdeur extrême, une lourdeur extrême, une lourdeur extrême, teintée de beuglement dont discerner un foutu mot relève de la gageure, ainsi qu'une ambition métal doom au service de morceaux qui, en moyenne, durent plus de 8 minutes. Non mais sérieux, qui fait des morceaux aussi longs?
Bah ça va, il y en a que 5.
C'est un supplice.
Voilà, Nina, pareil?
Moi, je dois avouer que je me suis marrée en fait en écoutant ce projet qui est complètement fou. Donc c'est un projet qui est très métal et du coup, on sort de mon domaine d'expertise. Il paraît en effet que ça se rapproche du black metal, bon, soit. Ce que je trouve cool justement, c'est qu'on est dans un projet qui sort des catégories et qui est clairement pas là pour plaire. Et qui nous embarque dans le trip très niche de son créateur. Effectivement, c'est très cinématographique, et moi je me suis dit que ça pourrait être un opéra gothique en fait. Et même si ni l'opéra ni le métal ne sont mon truc, franchement, si ça arrive, je crois que j'y cours.
Ah ben ça, c'est bien. Ça montre qu'on est très très ouvert chez Tata Poum. Enfin, vous, moi je le suis pas. Guillaume, toi t'as adoré.
Bah bien sûr, forcément. Enfin, mes amis, vous me faites découvrir une formation de notre beau pays. Alors, qui
on te fait découvrir, c'est toi qui nous a fait découvrir quand même.
Ah oui, c'est ça. J'étais persuadé que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait proposé. Bon, t'importe. Qui ose et réussit à se montrer à la hauteur de mes attentes. Qui a pour une fois que c'est les... c'est moi qui le propose. C'est difficile de faire la fine bouche, en tout cas sur ce très beau album de rempli de dévastation sonore totalement ambitieux. Et est-ce un hasard si c'est sur ce créneau, c'est sur un créneau qui échappe aux fondamentaux plus classiques du punk rock que se révèle une formation d'un tel niveau formée d'hexagonaux? Car Agnose s'apparente à une messe noire dont la démesure nous plonge dans une liturgie démoniaque. C'est un univers musical à la fois ample, excessif, qui emporte tant du côté des abîmes de l'expressionnisme allemand par la noirceur des tableaux soniques que du meilleur de ce qu'est capable d'offrir le black metal par la profondeur de son acoustique capharnaïsque. La profusion de la musique de Hazard est ce qui fait sa force. Son incroyable déploiement atteint un niveau opéraïque, symphonique, de là il excède la simple dimension métallesque et elle est d'une telle amplification qu'elle dépasse le genre auquel elle est censée appartenir pour troubler l'audition et nous transporter dans une dimension autre. C'est vraiment très fort de ce point de vue. J'avais des points de référence pour ce type de musique avec des groupes comme Liturgy ou Holiscum. Hazard les surpasse avec brio. Aussi, Hazard peut-il d'ores et déjà organiser une messe noire à Paris? J'irai y communier avec grand plaisir.
Eh ben, est-ce qu'on se prend quelques secondes pour écouter la suite de Sénétral ou Sénestralesque, puisque tout est en esque chez toi, Guillaume?
Approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était l'émission 71 de Tatapoum, une émission cafarnaesque avec Guillaume, Arnaud, Nina et Louise qui se sont amusés avec la noirceur et le féminisme et le shoegaze, tandis que Marion et Bibi ne disaient rien mais n'en pensaient pas moins quand même derrière la vitre. On vous laisse vous remettre de vos émotions électorales si par hasard vous avez encore des émotions après cette émission.